Bonjour à tous. Donc c'est vrai, aujourd'hui nous célébrons la Pâque, un moment c'est vrai particulier dans la vie de l'Église. C'est le jour où on se rappelle plus spécifiquement de la mort et de la résurrection du Christ. C'est l'occasion de revenir vers ce qui est fondamental dans notre foi. Et même dans notre société, Pâques et ce matin, j'essayais de convaincre mes enfants que Pâques, c'était pas juste chercher des œufs en chocolat dans le jardin. Bon, Timothée avait pas l'air tout à fait convaincu, mais donc, ok, Pâques et on en parle dans notre culture. Et cette semaine, à la radio, j'entendais un moment de une émission religieuse. Alors là, c'était une émission protestante qui nous parlait donc du carême, hein, de la préparation, à Pâques. Et c'était un pasteur donc qui faisait parler Jésus et lui faisait raconter pourquoi il était venu sur cette terre, ce qu'il y faisait, ce qu'il y avait dit. Et donc ce Jésus racontait qu'il était venu changer l'image de Dieu qu'avaient les gens, transformer l'image du Dieu vengeur en un Dieu, en un Père aimant, qu'il avait chassé les vendeurs du temple pour faire cesser les sacrifices d'un autre temps. Et en écoutant ce pasteur, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était séduisant, qui était intéressant, cette idée de la mise en avant de l'amour de Dieu. Et en même temps que j'écoutais ça, je trouvais ce discours singulièrement à côté de ce que moi je comprenais de la venue de Jésus. Et donc ce matin, je vous propose de parcourir deux textes. Le premier, c'est le psaume 22. Un psaume qui nous parle de ce que Jésus a vécu sur la croix. Et un autre texte qui se trouve dans Jean et qui nous parle de la façon dont le procès de Jésus s'est passé, en particulier avec Pilate. Donc je vais lire d'abord ce psaume 22, c'est un psaume de David. Donc, qui a été écrit à peu près 1000 ans avant que Jésus ne paraisse. Et donc, je commence au chef des chantres, psaume de David, à chanter sur l'air de Biche de l'Aurore. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi, déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche, et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes têtes du Basan sont tout contre moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi, ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule, tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, Il me regarde et il me toise. Il se partage mes habits et tire au sort ma tunique. Et je m'arrête là. Ces versets sont repris à de nombreux endroits dans les évangiles. Et on le sait, Jésus lui-même sur la croix donc va s'exclamer de cette façon-là, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce texte donc dépeint 1000 ans avant les souffrances spirituelles du Christ, cette séparation dont... cette séparation avec le Père, la souffrance morale du rejet, de la haine qui l'environne, la souffrance physique qu'il endure sur la croix. Et ce texte nous montre que bien sûr Jésus savait ce qu'il allait traverser. Il savait tout cela et il est venu quand même. Il le savait et même il est venu pour cela. Il est venu pour subir cela, pour porter notre condamnation, pour porter notre péché à notre place. Et bien sûr, il a changé notre rapport à Dieu. Il a ôté la séparation d'avec Dieu, mais il l'a fait non pas en montrant un Dieu qui nous aime malgré le péché. Il a ôté cette séparation non pas en abolissant la loi, mais en l'accomplissant. Et nous le savons, il n'y a pas de pardon sans la conscience du péché et ce que Paul disait sur le repentir et la libération qu'il apporte est tout à fait vrai. Il n'y a pas de restauration sans expiation, il n'y a pas de grâce sans justice, mais le salaire du péché, eh bien c'est Jésus qui l'a payé. L'expiation, c'est lui qui l'a accompli, et la justice, c'est sur lui qu'elle a été exercée. Alors, c'est vrai que notre société veut du, alors je vais le dire comme ça, mais bon, du politiquement correct. Elle veut que personne n'ait ses sentiments qui soient froissés, que personne ne soit heurté dans ses sentiments, dans son histoire, et en particulier avec l'explosion des réseaux sociaux et de la diffusion de l'information. Personne ne peut maintenant dire quoi que ce soit sans que quelqu'un se sente heurté par ce qui a été dit. Et pourtant, eh bien, Jésus, lui, il nous heurte. Il nous bouscule, ce texte qui décrit les souffrances qu'il a choisi d'endurer à notre place, eh bien, nous montre qu'à aucun moment le péché n'est sans conséquence, qu'à aucun moment... le péché n'a de gravité et que nous pouvons nous passer de ce sentiment d'indignité, de ce sentiment de culpabilité, de ce sentiment qui est le début de la repentance, qui est la conscience de notre propre faillite et de notre besoin désespéré de Dieu. Et ça, ça doit nous heurter, ça doit nous faire mal. Ce message-là est un message qui ne peut pas être léger et audible sans remise en question. Et c'est le point de départ de notre relation à Dieu, mais le point de départ seulement, évidemment, puisque de se repentir, eh bien, découle la vie, découle le pardon et la joie. Je continue donc avec ce texte qu'on trouve à la fin de l'évangile de Jean et qui décrit le procès de Jésus. Alors, j'ai promis que je ne parlerai pas de Notre-Dame de Paris qui a brûlé, mais malgré tout, En préparant cette prédication, ce que je pouvais partager avec vous sur la Pâque, hein, donc ben voilà, donc cette cathédrale a brûlé. Le président a fait un discours sur ce que représentait ce monument et dans l'histoire de France, etc. Et j'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que cette histoire représentait une façon dont le monde politique et l'Église étaient en contact. On voit dans cette cathédrale, en fait, un tissage entre notre société, entre la politique et l'Église. On ne peut pas vraiment y échapper, avec les avantages réciproques que les uns et les autres en tirent. Il y a eu beaucoup de réactions suite à ça. Beaucoup d'utilisation finalement d'un symbole, enfin d'un projet spirituel. Une cathédrale, c'est un projet spirituel. Ça raconte quelque chose sur Dieu. Ça raconte quelque chose sur la façon dont Dieu se manifeste dans la société. Et donc l'utilisation de ce projet-là pour servir des projets politiques. Et je dis pas ça comme une condamnation particulière, c'est une simple constatation. Et j'ai trouvé qu'il y avait un contraste saisissant entre cette imbrication et la façon dont Jésus, lui, a géré sa relation avec le monde politique, et en particulier au moment où son projet spirituel à lui arrivait à son accomplissement. Et donc je vais lire ce passage donc qui précède juste la crucifixion. Donc je lis dans Jean 18 et je commence au verset 28. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda : De quoi accusez-vous cet homme ? Ils lui répondirent : S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais ils lui répondirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate entra dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Lui demanda-t-il. Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ? Répondit Jésus. Est-ce que je suis juif, moi ? Répliqua Pilate. Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Jésus lui répondit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi ? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Mais qu'est-ce que la vérité ? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit : En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Ils lui répondirent en criant : Non, pas lui, Barabbas. Or Barabbas était un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs « Voilà, je le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» En le voyant, les chefs des prêtres et des gardes se mirent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » « Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Et les chefs des Juifs répliquèrent, « Nous, nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus, « D'où viens-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé Place Pavée. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Et ils se mirent à crier, « à mort, crucifie-le » « C'est votre roi. Est-ce que je dois le crucifier ?» répondit Pilate. Les chefs des Juifs répliquèrent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors, Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. Dans ce passage, Pilate est donc le gouverneur, le préfet de cette région, et on voit donc un homme politique, qui est face à un dilemme. On lui amène un homme pour qu'il le juge et qu'il le fasse tuer. Et on voit dans tout ce passage Pilate être de plus en plus réticent à faire tuer cet homme. Et pourtant, on sait que les Romains avaient la crucifixion facile. Il fallait pas grand chose pour que des personnes qui contestent l'autorité de Rome se retrouvent clouées au bord d'un chemin. Mais Pilate, lui, alors il sait qu'il est utilisé hein, par les chefs des Juifs. Hein, d'autres passages dans les autres évangiles mentionnent le fait que Pilate a bien compris que les chefs des Juifs se servaient de lui. Je pense qu'en bonhomme politique, il aime pas être utilisé. Mais on voit aussi que humainement, Pilate se rend compte qu'il est face à une situation qui le dépasse. Un autre évangile mentionne que sa femme l'a fait prévenir en lui disant qu'elle avait eu un rêve et qu'il devait se tenir éloigné de ce Jésus. Quand les chefs des Juifs lui disent que Jésus a affirmé être le Fils de Dieu, eh bien, en bon Romain qui a une idée que les dieux peuvent se manifester sur la terre, Pilate s'inquiète de se retrouver pris dans une situation qui dépasse justement sa condition d'homme politique. Donc humainement et politiquement, il est déstabilisé, il essaie de résister à la pression. Et puis on voit un homme politique en fait hein, qui est en train de mesurer les risques, de mesurer les jeux d'influence qui sont en train de se jouer. On accuse ce Jésus d'être un roi. Donc la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de savoir si effectivement il représente une menace politique. Est-ce qu'il conteste l'autorité de César? Et bon, il se rend assez vite compte que c'est pas le cas. Il voit l'influence des chefs religieux et il pèse le poids de la foule qui est devant lui pour voir si effectivement elle représente un risque pour de stabilité, pour la région qu'il doit administrer. Et peut-être même que Pilate est un bon homme politique, un bon gestionnaire. Cette région du monde est une région qui est une poudrière qu'il était à cette époque-là, et on sait que quelques dizaines d'années après ce passage-là, une révolte va conduire à ce que les légions romaines détruisent Jérusalem et massacrent une bonne partie de la population. Donc le rôle d'un homme politique à ce moment-là, c'est de s'assurer que la stabilité sociale soit assurée. Peut-être que finalement Pilate le fait correctement. Et donc on voit un homme bien pragmatique, cynique, qui va choisir de condamner un innocent, quelqu'un qu'il sait innocent des crimes dont on l'accuse. Eh bien, il va choisir de le condamner malgré ses réticences. Et en face de lui, on voit Jésus. Jésus qui se comporte d'une façon très étrange. La première chose qu'on peut constater, c'est que Jésus n'est absolument pas déférent. Pas déférent devant Pilate. Quand Pilate lui pose des questions, eh bien, d'abord, il répond par une autre question. Ensuite, quand il demande des précisions sur quelle est sa royauté, ben Jésus va répondre, mais d'une façon ambiguë. Et puis finalement, il va même à un moment donné ne pas répondre du tout. Donc face à cet homme qui représente l'autorité politique, militaire, sociale, eh bien Jésus va finalement ne pas reconnaître son autorité sur lui. Jésus va systématiquement répondre à côté des préoccupations de Pilate. Il va systématiquement être à côté de ce que Pilate attend. Quand Pilate lui parle de royauté, il va lui dire que son royaume n'est pas d'ici. Qu'il n'est pas sur le même plan que celui de Pilate. Quand il va affirmer sa royauté, il va affirmer que sa royauté est là pour rendre témoignage à la vérité. Vérité que Pilate est incapable de comprendre. Finalement, il va même juger Pilate. C'est lui qui va prononcer finalement la culpabilité de Pilate et la comparer à la culpabilité des chefs religieux. Jésus va même placer Pilate finalement dans le plan de Dieu et lui dire que la seule autorité que Pilate possède, elle lui a été confiée par Dieu pour ce moment précis. On voit donc Jésus complètement inaccessible aux considérations politiques, aux jeux de pouvoir qui sont, on va dire, le quotidien et le quotidien de Pilate. Jésus va être complètement transparent à ce mode de relation et de pensée. En lisant ce texte, je pensais j'ai une formation de physicien et je pensais à une particule qu'on appelle un neutrino. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette particule. C'est une particule qui n'interagit absolument pas avec la matière. Il y a des quantités phénoménales de neutrinos qui sont produites dans le Soleil et qui traversent gentiment la Terre sans même la voir, sans qu'il y ait d'interaction avec le milieu. Et je pensais, je me disais, bien voilà, Jésus est complètement traverse le monde politique de Pilate sans qu'il puisse être perturbé ni influencé par ce monde-là, comme un neutrino qui traverserait la Terre sans la voir. Et effectivement, là, on peut voir que la croix a été un non-événement politique. Politiquement, la croix n'a rien changé. Que Jésus se fasse crucifier à ce moment-là n'a eu finalement que très peu de conséquences sociales. Pourtant, la croix a été un séisme spirituel. Il y a avant la croix et après. Ça, si on reprend cette image de quelque chose qui traverse, spirituellement, la croix, ça s'apparente davantage à une météorite qui s'écrase sur la Terre et dont l'onde de choc se propage sur le globe entier et transforme tout ce qu'elle rencontre. La croix reste reste un scandale, encore aujourd'hui, un acte de Dieu qui ne peut nous laisser confortables, qui nous place devant notre propre péché, parce qu'il a fallu que le Fils de Dieu lui-même accepte de porter la culpabilité de notre péché pour que ce péché soit effacé. Notre société essaie de nous assimiler, essaie de nous contrôler. C'est l'histoire de l'Église d'être placée dans une société qui va petit à petit essayer de la rendre normale, de la rendre acceptable, de se débrouiller pour que le discours soit consensuel. Comme n'importe quel corps étranger qui est mis dans un milieu, eh bien le milieu va essayer de l'englober, éventuellement mettre des couches autour s'il y a trop de piquant. C'est l'histoire de l'Église que d'être en interaction avec le monde qui l'entoure et le monde politique. On peut voir que même dans notre Église, il n'y a pas très longtemps, on a écrit au maire pour lui demander de l'aide pour Cyrus et Simine. C'est une façon d'interagir en demandant et en recevant. Et c'est un chemin qui est dangereux et auquel il faut qu'on fasse attention. Pâques, c'est le moment où on se rappelle combien Jésus est étranger, combien le salut de Dieu est un scandale, combien ce Jésus ne peut être consensuel, ne peut être normal dans notre société. Pâques, c'est le moment où nous nous rappelons que, eh bien, nous aussi, nous sommes étrangers. C'est le moment de nous rappeler que Jésus a été dans le monde sans être du monde. Et c'est le moment où nous-mêmes, nous devons nous placer devant notre propre responsabilité d'être le sel de la terre, d'être suffisamment différent, d'avoir suffisamment d'aspérité, suffisamment de courage pour dire ce que souvent les hommes ne veulent pas entendre, dire ce qui parfois peut les choquer, peut les déranger, peut les heurter, donner ce message de la mort et de la résurrection, de la repentance et de la vie. C'est le moment pour nous de nous demander si nous sommes encore des étrangers. Alors, je m'arrête là. Je vous propose de prendre un petit moment pour que ces textes puissent nous puissent un peu les méditer et entendre aussi ce que Dieu veut nous dire à chacun.